Présidence.
Bienvenue à tous pour ce 11e numéro de Présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Plus de 10 numéros se sont écoulés, voici l'occasion d'un premier bilan. Depuis septembre, Présidence, c'est un des premiers talks politiques français. Qui dit talk politique dit mélange entre information et divertissement. Ainsi, Présidence, pour vous parler politique, a décidé de mêler des chroniques, par définition personnelles et subjectives, qui donnent une vision, souvent décalée, de la vie politique. Ce sont le carnet de campagne d'Amos ou le billet d'humeur et d'humour d'Antoine. Et donc mêler à cela une partie plus sérieuse, des chroniques qui se veulent plus journalistiques comme le portrait de Pauline ou le zoom politique. Sachant qu'évidemment la neutralité en journalisme n'existe pas, tout simplement car même avec toute la bonne volonté et l'éthique du monde, le journaliste politique qui prend son stylo, qui s'assit derrière un micro ou devant une caméra, reste un homme et pas un robot qui aligne les mots. De plus, nous ne voulons pas vous faire entendre des chroniques qui commencent par « La marquise sortie à 5 heures » que l'on peut moduler par Eva Joly, Nicolas Sarkozy ou François Hollande « Sortir à 5 heures ». Présidence n'a pas l'ambition de concurrencer BFM TV ou iTélé et de vous servir un fil info politique où se succèdent les informations sans hiérarchie ni commentaire. Dans le volet plus sérieux, il y a surtout la partie centrale de Présidence qui occupe plus de la moitié de l'émission et est consacrée à un invité et à un thème et ou à un livre qu'a écrit cet invité. Depuis le début de l'année, nous avons ainsi reçu tous les grands partis politiques français qui comptent dans l'élection présidentielle actuelle, excepté le Front National, que nous inviterons peut-être dans les mois à venir. Nous avons en effet reçu Philippe Mérieux pour Europe Écologie Les Verts, Najat Vallaud-Belkacem pour le Parti Socialiste, Dominique Perben pour l'UMP, Jean-Pierre Rioux pour le Modem, et nous avons consacré un numéro spécial au Front de Gauche avec l'interview de deux de ses responsables politiques. Et aujourd'hui, c'est le député maire de Provins, plusieurs fois ministre, notamment de la fonction publique de 2005 à 2007, actuellement chef du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui a répondu à nos questions à propos de son livre « Le bon sens en politique » publié chez Erol. Et cet invité, c'est Christian Jacob qui s'est prêté au jeu de l'interview. L'occasion d'évoquer avec lui le thème de l'agriculture et plus largement de l'environnement, et surtout de revenir sur des sujets brûlants de l'actualité de la campagne présidentielle. Mais avant d'écouter cette interview enregistrée à la mairie de Provins, je vous invite à rentrer dans une galerie de peinture, à l'ambiance cosy, où sur les murs s'alignent des portraits. Vous passez devant certains portraits, notamment deux que vous avez déjà vus, que vous connaissez bien maintenant, celui d'Eva Joly, que vous avez découvert voilà deux numéros, et celui de Nicolas Dupont-Aignan, sur lequel vous vous êtes arrêté au dernier numéro. Vous l'avez compris, vous êtes entré dans la galerie de Pauline, et il est temps d'écouter le portrait de la semaine. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors dans ta galerie, tu attends nos auditeurs devant un tableau d'un rouge vif. Alors ce n'est pas un Francis Bacon, c'est un Jean-Luc Mélenchon il me semble.
Oui tout à fait, donc Jean-Luc Mélenchon, et j'ai intitulé ce portrait d'une manière un peu particulière puisque c'est une question qui vous est adressée chers auditeurs et à propos justement de ce portrait, ce titre est « Me jugerez-vous professionnel ?»
Ça promet.
Jean-Luc Mélenchon, celui d'aujourd'hui, c'est avant tout un homme né d'une confrontation dialectique avec celui qu'il considérait de prime abord comme son rival au Parti Socialiste, mais dont il finit par rejoindre et soutenir les vues, Benoît Hamon, incarnation à partir de 2007 d'une nouvelle génération à la gauche du PS. En effet, si Mélenchon a pu considérer Hamon comme une menace, c'est pourtant bien la motion proposée par lui au congrès de Reims de 2008 que l'actuel leader du Front de Gauche défend et vote. Mais la motion ne fait que 19%. C'est un échec cuisant, et c'est dans la nuit qui suit que Mélenchon décide de quitter le PS. Coup de tête, coup de sang comme il nous y est habitué. En fait, depuis 2002 et la défaite de Lionel Jospin au premier tour de la présidentielle le 21 avril, Mélenchon ne se sent plus vraiment à sa place au sein d'un parti en proie à une déliquescence persistante et aux mains d'une direction, celle de François Hollande, dont il croit qu'elle ne l'estime pas à sa juste valeur. Un parti aussi dans l'idéologie duquel il ne se reconnaît pas. Témoin attentif qu'il est de la démarche qu'il admire, outre Rhin, d'Oscar Lafontaine, l'ex-leader du SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, parti social-démocrate allemand, bientôt fondateur de Die Linke, à la gauche de son ancien parti. c'est que Mélenchon a besoin de modèles. Il souffre en effet d'un manque cruel et d'un besoin constant de reconnaissance et d'approbation et de soutien. Paradoxalement, ce qu'il faudrait retenir de lui, ce n'est pas tant son sang chaud et sa verve bouillante, lui-même le dit, comme pour excuser ses coups de gueule improbables, « je suis un homme du Sud », ce n'est pas simplement le talent d'un tribun indéniable, comparable dans sa force de conviction et d'adhésion à la fougue oratoire de François Mitterrand, qui par ailleurs fascinait et fascine toujours Mélenchon, et à ce propos l'ex-socialiste Marc Dolez dit « Mitterrand l'avait repéré, pour le jeune militant qu'il était à l'époque, ce fut quelque chose d'incroyable ». Non. Ce qu'il faudrait retenir de Mélenchon, au fondement de sa démarche d'homme politique, mais aussi, sinon surtout, d'homme tout court, c'est son expérience intime et même charnelle de l'arrachement, de la déception et pourrait-on dire de l'exil de soi. Comment ne pas évoquer, en effet, quand il s'agit de dresser un portrait même rapide du candidat Mélenchon, son enfance duelle et duale entre l'âge d'or au Maroc, où il naît à Tanger le 19 août 1951, et l'arrivée en France à l'âge de 10 ans, dans la rigueur d'un hiver glacial, entre la chaleur de Tanger, ou bien que vivant dans une famille modeste, il fait partie de la couche dite favorisée de cette population européenne agissant en supérieur. Entre ça, donc, d'un côté, et de l'autre côté, la dureté normande du pays de Caux, où il vit dans un grenier et où les gens du pays l'appellent le bico. Comment ne pas signaler le divorce de ses parents dans la foulée du déménagement en France? Comment ne pas mentionner ce que lui-même avoue, ce sentiment de perdition qu'il a frappé après la défaite de Lionel Jospin en 2002, au point de somatiser? Sur LCP Public Sénat, dans l'émission Déshabillons-les, en janvier 2011, c'est-à-dire près de 10 ans après le traumatisme du 21 avril, Mélenchon raconte « J'en étais malade, malade au sens physique du terme, j'ai mis un temps fou à m'en remettre. » C'est qu'après la séparation douloureuse d'avec son modèle et mentor François Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon avait placé tous ses espoirs, ou presque, dans celui qui, comme lui, entend, avait adhéré au trotskisme. En 2000, le Premier ministre Jospin lui avait même confié le poste de ministre délégué à l'enseignement professionnel. Pourtant, Mélenchon n'était pas vraiment dans la même mouvance que Jospin, mais entre les deux hommes, c'est une complicité qui s'était créée. Encore un exemple de ce besoin de reconnaissance, d'approbation et plus profondément de confiance réciproque. Car s'il est une constante et une caractéristique de Jean-Luc Mélenchon, c'est sa volonté de s'adresser aux hommes avant tout, à l'humanité qui sous-tend et motive toute conviction, ambition ou démarche politique. Mais dans cette humanité à la Mélenchon se confrontent le bien et le mal, s'épanouit la croyance dans la réalité et la solidité d'un manichéisme du monde et des hommes. Il y aurait d'un côté le peuple, trompé, torturé, escroqué, et d'un autre et antagoniste côté tout le reste, le gang des politiques salauds, la clique des journalistes fachos et le club des petits cons de Sciences Po. Et sa virulence de répondre à la violence des possédants impénitents. Comme si les politiques et autres nantis n'étaient pas du peuple. Comme si le peuple n'élisait pas lui-même ses représentants ou les choisissait mal. Comme si ce que lui et ses militants appellent le peuple, en somme, était trop naïf. Sous prétexte de promouvoir la souveraineté d'un peuple uni, Mélenchon divise irrémédiablement et tire les ficelles d'une crise de confiance. Faut-il lire dans ce comportement les conséquences de son arrachement au Maroc, du déchirement de ses parents, de l'implosion du PS, de sa dissidence? Difficile, en tout cas, voire impossible, pour un homme aux vues si radicales et aux discours si tranchants, de croire qu'il existe une moyenne, de prôner un moyen terme, d'accepter la médiocrité. Derrière l'apparence de spontanéité de ses coups de gueule publics se cache le calcul politique d'une mise en scène médiatique. Si Mélenchon est de fait un colérique, capable de s'emporter au-delà du politiquement correct, il est avant tout un homme passionné, un caractère entier, perfectionniste et absolu. À ce titre, il supporte mal la critique, non parce qu'elle remet en question ses idées, mais parce qu'il croit qu'elle le met en cause, lui, en tant qu'homme, confondant souvent son travail et sa personne, la pertinence de sa politique et sa valeur d'homme. Manipulateur, menteur, vendeur, Mélenchon l'est certainement, plus ou moins, comme tout homme politique. Mais contrairement aux autres, c'est sa vie qu'il risque à la présidentielle. Parce que même quand il joue, il est honnête. Jean-Luc Mélenchon, à n'en pas douter, se situe quelque part entre Rambo et Robin des Bois, mastodonte et justicier à la fois. On comprend dès lors son besoin de s'attaquer sans cesse à un tel ou à un tel. Il est à lui seul le bon et la brute. Quelle autre raison d'être, alors, que l'existence d'un truand à abattre?
Merci Pauline. Alors parfois, dans les tourbillons de la campagne présidentielle, alors que fusent les polémiques qui usent la patience des Français qui veulent, eux, des réponses concrètes, alors que certaines mesures proposées par certains candidats semblent opportunistes et électoralistes, oui, parfois, on aimerait un peu de bon sens en politique. Le bon sens en politique, c'est justement le titre du livre de notre invité, le président du groupe UMP à l'Assemblée, Christian Jacob. Bonjour Christian Jacob.
Bonjour.
Agriculteur de formation, c'est alors que vous exercez des responsabilités dans le syndicalisme agricole que Jacques Chirac vous repère. Vous serez plus tard membre de son gouvernement lors de son premier quinquennat de 2002 à 2007. D'abord comme ministre délégué de la famille, puis comme ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, mais surtout comme ministre de la fonction publique de 2005 à 2007. Vous êtes député maire de Provins depuis une dizaine d'années. Et depuis le 23 novembre 2010, vous êtes le président du groupe UMP à l'Assemblée. Vous avez écrit un livre, Le bon sens en politique, chez Erol, qui est construit comme un abécédaire. À chaque lettre correspond plusieurs entrées, comme A, affichage environnemental ou agriculture, B, bio, etc. À la lettre P, on trouve notamment Provins. Précisons d'ailleurs que c'est dans votre bureau de la mairie de Provins que cette entrevue est enregistrée. Donc P comme Provins, alors je suis né à Provins, je suis profondément attaché à cette belle endormie, pour citer Alain Perfit, hein, vos prédécesseurs, à cette très belle ville de France qui fut le cœur économique et commercial de l'Europe au XIIe et XIVe siècle. Et d'ailleurs, lors de vos deux passages à la télé chez Laurent Ruquier le samedi soir à On n'est pas couché, vous n'avez jamais manqué de parler de Provins. Alors que représente pour vous Provins et que dire à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas cette ville ?
D'abord, Provins, c'est un vrai attachement, un vrai enracinement. Ma famille est sur la région en ligne directe, peut-être avant, mais en ligne directe depuis 1664, dans un rayon, disons, de 30 à 40 kilomètres autour de Provins. Mais à ma connaissance, je suis le seul, avec mon épouse, enfin le seul dans notre lignée familiale, à habiter à Provins. Sinon, pour les auditeurs, Provins est d'abord la seule ville de France qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO dans l'intégralité de son périmètre urbain. C'est une vraie ville d'histoire au sens complet du terme parce qu'on peut y découvrir, dans une visite à Provins, toute l'histoire du grand médiéval, c'est-à-dire on peut démarrer à les 10e siècle avec la construction de Saint-Ayoul, et jusqu'au 15e, 16e, on est vraiment sur des moments historiques, mais l'apogée, c'est la fin du 12e. D'abord une ville de foire, de commerce, de rencontres. Ça a été la deuxième place financière de France, où les comtes de Champagne avaient imaginé un commerce sécure, ce qui était très important, ce qui l'est toujours, mais ce qui était très important à l'époque, puisque en fait, ils allaient chercher les marchands sur les villes de foire précédentes, les accompagnaient sous bonne garde jusque Provins, ce qui fait qu'ils n'étaient ni rançonnés ni raquettés par les bandits de grand chemin, et les accompagnaient ensuite à la foire suivante. Par ailleurs, pour gérer les conflits qu'il y avait, comme sur chaque foire, ils avaient inventé en quelque sorte, avant l'heure, les tribunaux de commerce.
On sent bien dans le livre que c'est une ville qui vous est éminemment chère. Et d'ailleurs, ça fait 10 ans que les Provinois vous font confiance. Et dans votre livre, Le bon sens en politique, on découvre un livre politique comme on en lit peu. Il est d'abord empreint de sincérité. Vous l'avez écrit vous-même, ça fait aucun doute. On y entend la voix d'un homme entier et droit dans ses convictions et ses valeurs. Un homme qui se livre avec pudeur, évoquant au détour d'une page sa jeunesse en pension à Sainte-Croix, à Provins, ou sa ferme à Vaudois-en-Brie, où vous avez grandi avec votre corbeau apprivoisé Coco, ou encore sa rencontre plus récente avec le père Francisco van der Hoff, qui vous a profondément marqué.
Oui, tout à fait, beaucoup.
Fondateur du commerce équitable et du label Max Havelaar.
Oui, oui.
La voix d'un homme et son franc-parler, d'un homme qui ne manie que peu la langue de bois, d'un homme franc et resté proche des Français. Comme quant à la lettre P, comme paysan, vous égratignez les écologistes en disant « Chez les Verts, on se représente souvent le monde paysan comme celui de la petite maison dans la prairie, sympathique, mais vieillot. » Ou comme à la lettre S, comme sérail, quand vous racontez une anecdote lors du vernissage provinois qui signe votre premier contact avec la bonne bourgeoisie, ou vous répondez à des dames qui vous demandent pourquoi vous vous intéressez à la culture, vous dites « Eh oui, mesdames, j'ai commencé par la culture des betteraves et depuis, j'essaie d'évoluer. » Alors, un livre touchant, où apparaît une qualité qui, en politique, est assez rare, la loyauté et la fidélité. Vous évoquez notamment votre ami Jean-François Copé et tous les autres mousquetaires que sont avec lui et avec vous, Bruno Le Maire, François Baroin, mais aussi plus récemment Valérie Pécresse et Luc Châtel. Mais surtout, vous évoquez avec une grande tendresse Jacques Chirac, qui a écrit la préface de ce livre et pour lequel vous avez cette phrase « J'ai un mentor et on m'arracherait un œil
plutôt que de me contraindre à le renier. C'est important la fidélité en politique.
Oui, oui. Oui, c'est important dans la vie tout court. Quand on a, je pense, des parcours comme les miens qui sont un peu atypiques dans la vie politique, d'avoir quelqu'un à un moment qui vous fait confiance, qui vous met le pied à l'étrier, on a envie d'abord de lui rendre ça. Et Chirac, c'est à la fois c'est un mélange de grande affection, mais de profond respect et puis de beaucoup d'admiration aussi pour les valeurs humaines qu'il incarne. Le monde politique est un monde qui est dur, qui est difficile, mais il en existe beaucoup d'autres. Bien souvent, on imagine que c'est qu'un monde de coups, d'échanges, de verbes, etc. Or, comme dans tous les moments un peu difficiles, ces moments, on se fait des socles d'amis très, très solides. Et puis on est à l'épreuve. Jean-François Copé, ça fait bientôt 20 ans maintenant qu'on fait de la politique ensemble.
Un livre intéressant parce que c'est aussi un livre de fond. Et dans votre livre, vous évoquez à plusieurs entrées, la question de l'agriculture notamment, tant à l'échelle nationale qu'européenne. Et vous rappelez que la France reste une grande puissance agricole, incontestablement dans le monde, même si depuis quelques années, les agriculteurs français, comme d'autres en Europe, connaissent de nombreuses difficultés et ont du mal à boucler les fins de mois. Alors l'avenir de l'agriculture française, il est si sombre que ça ?
Non, non, moi je crois qu'il est au contraire plein de perspectives et d'espoir, mais avec effectivement une difficulté à laquelle le monde agricole n'était pas habitué, c'est cette fluctuation des cours. Pendant des années, et moi qui suis un ancien syndicaliste agricole, on allait manifester à Bruxelles pour obtenir 5 ou 10% d'augmentation sur les cours. Maintenant, tout cela est terminé. On est sur des cours mondiaux avec globalement une augmentation très forte de la demande alimentaire mondiale. Donc à partir de là, il y a beaucoup de perspectives pour l'agriculture, mais il faut avoir des exploitations qui aient la capacité d'encaisser les chocs, les fluctuations des prix. Et puis au-delà de l'alimentaire, il y a aussi des perspectives énormes dans le non-alimentaire. Il y a bien sûr les biocarburants qui sont un peu la partie émergente de l'iceberg, mais bientôt, on va voir qu'au-delà des biocarburants, on a des capacités de développement sur l'industrie plastique, chimique, sur les équipements de voitures, sur les couches culottes, sur des stylos à billes. Enfin, le nombre de choses qu'on peut faire à partir de l'amidon et des cracking sur nos produits agricoles, c'est énorme.
Pour remplacer à terme le pétrole et tous ses dérivés.
Oui, c'est une des... Alors, ça n'est sans doute pas la seule, mais en matière d'énergie et de remplacement des plastiques qui viennent des hydrocarbures, là, le monde agricole et le biodégradable a des marges de progression importantes.
Et ça, donc, vous soulignez à la fois la recherche d'un remplacement de mode énergétique, mais aussi de la fluctuation des prix. Tout ça, ce sont des réponses qu'on trouve surtout à l'échelle européenne et mondiale. Et c'est ce que vous soulignez bien à la lettre M comme Momagri, où vous dites « Tous les agriculteurs du monde sont confrontés au même défi, la volatilité des prix et la spéculation financière. » Et vous dites « Soutenir les réponses apportées par le Momagri, donc c'est-à-dire le mouvement pour l'organisation mondiale de l'agriculture. » Alors justement, quelles sont ces réponses que donne le Momagri, les grandes lignes ?
Les grandes lignes, c'est que... À chaque fois qu'on a travaillé sur des régulations des prix des produits agricoles, bon, d'abord, soit il y a deux grands blocs qui sont préoccupés de protéger leurs agriculteurs, c'est l'Europe et les États-Unis, avec des systèmes différents, mais on a toujours essayé de réguler le marché mondial. Or, les coûts de production sont tellement différents entre un producteur au Sénégal, un au Mexique, comme j'ai pu en rencontrer beaucoup avec le père Van der Hoff, ou un agriculteur de Provins, on se rend compte que finalement, si on découpe le monde en 10 grandes régions, c'est ça l'idée de Momagri, on va chercher sur le marché mondial que 10% des produits. Donc toute la réflexion, c'est de dire, occupons-nous de réguler ces 10% de produits qui peuvent déstabiliser les cours, parce que quand le prix d'un produit est à 100, si d'un seul coup sur le marché mondial il décroche et puis il descend à 4 ou 5, eh bien ça déstabilise obligatoirement l'ensemble des prix sur la scène internationale. Et donc là, il y a des propositions de systèmes d'alerte. Ce sont à la fois des économistes, des agriculteurs, des philosophes qui ont travaillé ensemble. Et il y a une vraie approche très, très construite qui n'est pas très éloignée du commerce équitable, qui est une autre approche qui m'a beaucoup séduit chez le père Van der Hoff, c'est-à-dire que lorsqu'on consomme un produit, on raisonne sur le prix à la consommation. Et lui raisonne sur l'acte de production en disant il faut d'abord rémunérer l'acte de production. Et ce qui évite d'avoir, on le voit sur ces exemples sur le café, d'arriver à sauver des producteurs, c'est-à-dire préserver au moins cet acte de production, que celui qui travaille ne soit pas soumis à ces règles infernales à certains moments du marché. Donc l'idée, c'est de dire, on s'occupe de 10% des produits, c'est-à-dire les 10% qui sont sur les marchés mondiaux. Là, on les encadre avec des systèmes d'alerte, c'est-à-dire que quand les cours dégringolent, très fort, il y a un système de compensation qui se met en place. En revanche, lorsqu'on dépasse un cours moyen, eh bien, on fait un prélèvement pour alimenter le fonds.
Vous avez donc parlé de nouvelles manières de produire, on le voit bien là. Évidemment, quand on dit ça, nouvelles manières de produire dans le domaine agricole, on pense tout de suite au bio. Et ça tombe bien, vous avez une entrée B comme bio, où vous rappelez la nécessité de développer ce type d'agriculture qui est encore peu structuré et répandu en France. Mais vous mettez en garde ceux qui confondent agriculture biologique et sécurité alimentaire. Donc on tombe sur ce que vous disiez juste à l'instant. Vous continuez en disant, je vous cite, « Cela signifie que nous devons faire résolument le choix des techniques et des technologies les plus modernes pour notre agriculture et notre industrie agroalimentaire. » Et un peu plus loin, « L'apport de certains OGM est très positif car il permet une réduction des produits phytosanitaires et des intrants nocifs pour l'environnement. » Alors évidemment, ce sujet, vous le savez, en France, fait débat, polémique. Alors, vous êtes plutôt favorable aux OGM. Quelles sont vos raisons ?
Moi, je suis favorable aux OGM à condition qu'on soit bien évidemment dans un système complètement encadré pour pas laisser de place à une aventure où on ne saurait pas où elle peut se terminer. L'idée est simple, c'est de dire que on a aujourd'hui une demande, quand on regarde les courbes, une demande alimentaire qui augmente de manière très importante, donc, et une offre qui n'arrive pas à compenser. Alors, comment est-ce que l'on peut faire pour compenser cette offre et fournir la demande ? Ben, ce qui existe aujourd'hui, c'est les systèmes de déforestation, ce qui se passe dans le monde entier. Chaque année, dans le monde, disparaît l'équivalent de l'Angleterre en déforestation. Donc, ce qui est gravissime. Mais comment expliquer à des peuples qui ont faim, comment leur apporter une réponse autre en disant ben, on va effectivement déforester pour replanter des cultures. On voit bien que ça ne compense pas. Et donc on a aujourd'hui une capacité de produire davantage, donc d'aller beaucoup plus vite sur la recherche génétique qu'on y allait jusque maintenant, donc avec plus de rendement. Et puis également avoir des variétés qui évitent d'utiliser des pesticides comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire des variétés qui soient résistantes à certaines maladies, résistantes aux insectes et qui donc nous permettent d'avoir une meilleure productivité. Donc c'est tout simplement ce que l'on fait avec la recherche variétale depuis 50 ans, de pouvoir l'accélérer pour répondre à l'augmentation énorme de demandes alimentaires. Il y a des risques environnementaux donc sur lesquels il faut se protéger, notamment sur les phénomènes de pollinisation, etc., où il faut faire attention, mais il faut laisser avancer la recherche. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes en train de prendre beaucoup de retard.
Alors passons, si vous le voulez bien, maintenant à des questions concernant l'actualité politique un petit peu plus brûlante. Et à la lettre U, comme UMP, vous déclarez « Je ne suis pas favorable à l'institutionnalisation des courants au sein de l'UMP, comme l'a fait le PS, au point d'être devenu un véritable champ de foire aux dissensions. » Alors, quel regard, justement, porte le président du groupe UMP à l'Assemblée sur la multiplication depuis un an et demi de ce que les journalistes appellent les chapelles à l'UMP, de la droite sociale menée par Laurent Wauquiez à la très médiatique droite populaire, en passant par la plus discrète, mais beaucoup plus rassembleuse, droite humaniste ?
On est sur des courants de pensée, mais avec des gens qui naviguent de l'un à l'autre. Vous avez d'ailleurs des parlementaires qui sont à la fois à la droite sociale et à la droite populaire. Ceci étant, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le débat, d'être dans un parti où il y a en permanence débat. À partir du moment où on a fait le choix de rassembler les anciennes chapelles de droite, c'est-à-dire les deux blocs qui étaient le RPR d'un côté et l'UDF avec ses différentes sensibilités. À partir du moment où on a décidé de faire un grand parti qui rassemble tout le monde, eh bien il faut que le débat puisse vivre. Et c'est la raison pour laquelle, moi, autant je suis attaché au respect de ces différentes sensibilités, en même temps, je ne veux pas les transformer en chapelles. C'est-à-dire le jour où tel, et certains essaient de se faire le porte-étendard, ça n'est pas une bonne chose. Ce sont des groupes de députés qui s'expriment, et encore une fois, beaucoup de parlementaires sont dans un groupe et dans un autre. Mais on n'est pas dans des écuries politiques. Et c'est ça qu'il faut éviter et qu'on essaye d'éviter, et plutôt bien jusque maintenant.
Mais pour revenir justement sur la droite populaire, on a l'impression d'une stratégie de sa part pour attirer un petit peu, comme ça s'est passé en 2007, les électeurs potentiellement attirés d'habitude par l'extrême droite en reprenant des thèmes du Front National. Alors justement, vous, comment vous jugez cela, cette possible stratégie de la droite populaire? Est-ce que c'est la bonne façon de faire campagne pour l'UMP, d'essayer d'attirer les voix du Front National?
C'est pas d'essayer d'attirer les voix du Front National, c'est de répondre à l'ensemble des aspirations des Français sur des thèmes comme la sécurité sont des thèmes de préoccupation, comme d'autres sur le chômage, comme sur la formation. Et donc, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut porter au débat. Et donc, pour les amener en débat au sein de notre famille politique, il faut aussi parfois les porter médiatiquement. Mais il y a parfois une caricature qui est faite des députés de la droite populaire qui est assez fausse. Vous trouverez rarement des députés aussi opposés au Front National, tout simplement parce que ce sont des députés, souvent sur des circonscriptions où ils sont en bagarre avec le Front National.
Et il y a une entrée dans votre livre, A comme assimilation, où vous concluez en disant « En matière d'immigration, il n'est plus politiquement correct d'évoquer la politique d'assimilation. Quelle curiosité dans un pays comme le nôtre où la citoyenneté et la nationalité, ce qui est historiquement vrai, sont si indissolublement liées dans une république qui proclame que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Alors justement, quelle est la politique d'assimilation que vous défendez et pourquoi c'est devenu tabou d'en parler aujourd'hui?
Je ne sais pas. C'est d'ailleurs assez bizarre qu'on refuse. C'est pour ça que je l'ai réaffirmé un peu par provocation, puis c'est des sujets sur lesquels moi je suis assez à l'aise. D'abord sur le lien nationalité-citoyenneté, il est complètement lié en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis résolument opposé au droit de vote des étrangers, en disant à partir du moment où on veut être citoyen à part entière, il faut avoir la nationalité. Sinon, on fait une catégorie de demi-citoyens, en quelque sorte, qui auraient certains droits, mais pas d'autres. Et le principe de l'assimilation, c'est que je suis dans un pays, je me conforme, je me plie aux règles de ce pays, et dans un esprit qui doit être complètement, enfin, républicain, ce qui a fait toute la richesse. La France s'est construite d'immigration successive. Et parce que, justement, on a eu cette capacité à assimiler les vagues successives d'immigration, c'est ça qui fait notre histoire.
Alors comment justement expliquer, parce qu'on voit bien dans votre discours que ça n'a rien à voir avec le discours du Front National, qui lui est plutôt, zéro immigration, on n'accepte pas l'immigration, etc. Alors comment expliquer qu'on ne peut plus parler d'assimilation, ce qui n'est pas du tout la même chose que intégration zéro du Front National? Comment expliquer ça? Et quelle est, de manière plus générale, la politique de l'UMP en matière d'immigration, pour résumer rapidement pour nos auditeurs?
Parce que sur la première question, je pense qu'on est parti trop dans une logique de communautarisme, et ce qui est très mauvais, pour moi c'est assez malsain, c'est-à-dire que quand on rentre dans une logique de communautarisme, on veut faire plaisir à telle communauté, et après on donne un signe à une communauté, on doit donner un signe à l'autre communauté, et donc ça n'est plus les valeurs de la République.
Mais qui a fait ça, par exemple?
Je pense que c'est les... à la fois la classe politique, nous, les partis politiques, d'ailleurs droite comme gauche, en excluant les extrêmes, oui. Mais je pense qu'un discours un peu contenu ou mal à l'aise du Parti socialiste, comme de l'UDF, comme du RPR à certains moments, sur ce sujet de l'immigration, fait qu'on a renoncé à... Moi, je pense que à la fois d'avoir une immigration qui soit qui soit limité en fonction des besoins économiques, parce que sinon on rate faire venir des gens pour les mettre dans des cités sans espoir, sans emploi, sans reste, c'est catastrophique. Et donc là, on génère de vrais problèmes humains et sociaux. Donc je pense qu'il faut là-dessus remettre un discours de vérité, c'est-à-dire de l'immigration choisie, mais dans une logique d'assimilation complète.
Alors si en 2007, la campagne avait été marquée justement par ces questions d'immigration et avait justement peut-être contribué à ce brouillage entre les discours, cette année, en 2012, pour la campagne, c'était un tout autre sujet qui est au cœur de l'actualité, celui de la crise et de la gestion de la dette, surtout depuis que l'agence Standard & Poor's a dégradé la note de la France, la faisant passer du triple A symbolique à l'échelon d'en dessous, à A+. Alors, est-ce que c'est, comme on l'a beaucoup entendu, l'échec de la politique de Nicolas Sarkozy ?
Non, ça n'a strictement rien à voir. Parce que si c'était ça, la dégradation des États-Unis, on pourrait dire aussi que c'est Nicolas Sarkozy, ou celle de la Grèce, que c'est Nicolas Sarkozy. Donc bon, je crois que c'est strictement rien à voir. Il y a une crise sans précédent. D'ailleurs, c'est les 17 pays de la zone euro qui ont été dans cette dégradation de leurs notes, avec l'argumentation d'ailleurs de Standard & Poor's, qui, dans ses attendus, explique que c'est la fragilité de la zone euro qui amène à cela. Mais nous sommes engagés dans une politique de réduction des déficits. D'ailleurs, on va boucler l'année 2011 dans de meilleures conditions que ce qu'on avait imaginé, puisqu'on était parti sur un prévisionnel avec un déficit à 5,7, et je pense qu'on va plutôt finir à 5,4, 5,3, enfin entre 5,3 et 5,5. Donc avec une amélioration par les mesures courageuses qui ont été prises, et on souhaite continuer sur cette logique pour arriver à un budget en équilibre, ce qui est un vrai point de fracture avec François Hollande et le Parti Socialiste, qui aujourd'hui refuse le vote de la règle d'or qui a été adoptée dans la plupart des pays de l'Union européenne, y compris avec des socialistes au pouvoir. La règle d'or, c'est de dire qu'on doit arriver à un équilibre de notre budget, et on le grave dans le marbre en quelque sorte en votant ce texte que la gauche française pour le moment refuse, en sachant qu'elle est la seule de l'Union européenne à la refuser.
Alors enfin, dernière question, un peu plus politique. En mai-juin, si les sondages continuent ainsi, et surtout s'ils ne se trompent pas, parce qu'on sait qu'il faut prendre les sondages avec des pincettes, il y aura peut-être une nouvelle majorité à l'Assemblée, une majorité de gauche. Donc serez-vous content et fier d'avoir été le dernier président du groupe UMP à l'Assemblée quand celui-ci était majoritaire ?
Okay. D'abord, on n'en est pas on n'en est pas là. Ensuite, président de groupe, c'est passionnant, parce que surtout d'un grand groupe comme on l'a à l'UMP, 313 députés, c'est 313 tranches de vie, 313 histoires et 313 personnalités à rassembler sur un projet commun au moment des votes. Et c'est quelque chose de passionnant. Moi, je l'évoque à un moment dans le livre quand j'explique que j'ai refusé de rentrer au gouvernement et que j'ai fait le choix de l'Assemblée, parce que la présidence du groupe parlementaire est vraiment quelque chose qu'on vit avec beaucoup de
passion. Et donc, en mai-juin, vous seriez partant pour reprendre la présidence de ce groupe ?
Oui, 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 je l'ai écrit d'ailleurs. J'ai dit que je serais candidat à ma succession.
Ben, merci de nous avoir reçus dans votre bureau à la mairie de Provins. Et je rappelle votre livre, Le bon sens en politique, publié chez Erol.
Merci à vous.